Vous écoutez, on lit pour vous.
Les extrêmes droites européennes en porte-à-faux avec Donald Trump. Un texte de Fabien Deglise, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir. Le changement de ton est suffisamment important pour être digne de mention. Mardi, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, RN, parti français d'extrême droite de Marine Le Pen, s'est montré soudainement défiant à l'endroit de Donald Trump. Lorsqu'un président américain menace ouvertement un État européen, lorsqu'il combine une pression territoriale assumée avec un chantage commercial explicite, c'est un rapport de force qui s'impose, a dit le chef de file des Patriotes au Parlement européen, tout en dénonçant le grenouillage du président américain autour du Groenland et le spectre des tarifs qu'il a fait planer cette semaine sur les pays européens, cherchant à se mettre en travers de son chemin entre lui et le bout de glace. C'est ainsi qu'il a parlé du territoire danois depuis Davos cette semaine, qu'il veut acquérir. Le républicain a depuis mis de l'eau dans son vin et a fait baisser la pression sur l'Europe, pour le moment du moins. La déclaration de Bardella tranche avec les propos généralement conciliants du RN face aux politiques brutales mises en place par le républicain depuis son retour à la Maison-Blanche. Mais elle semble suivre un mouvement de fond au sein des extrêmes droites européennes qui, après avoir salué la réélection de Donald Trump l'an dernier, en raison de ses positions sur l'immigration, les questions identitaires, les politiques environnementales ou les guerres culturelles qui rejoignent leur programme, cherchent désormais à s'en distancer, comme pour éviter de faire les frais de l'impopularité croissante que son chaos et son régime de terreur génèrent aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Donald Trump a violé une promesse de campagne fondamentale, celle de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres pays, a dénoncé cette semaine Alice Wendel, co-chef de l'Alternative pour l'Allemagne, AfD, parti d'extrême droite, dont l'ascension a pourtant été soutenue par la droite radicale américaine, tout comme par Elon Musk, complice des premières heures du second mandat de Donald Trump. Son binôme à la tête de l'AfD, Tino Chrupalla, a pour sa part dénoncé des politiques américaines dignes du Far West. Sur le réseau X, l'idéologue de l'extrême droite suédoise et ex-dirigeant du Parti nationaliste et populiste, Sverige Demokraterna, SD, démocrate de Suède, Mathias Carlson, n'a pas mâché ses mots, affirmant que Donald Trump ressemble de plus en plus à un anti-roi Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en désastre, plutôt qu'en or. Par voie de communiqué, le Reform UK, parti populiste dirigé par l'agitateur public Nigel Farage, qui ne cache pas ses liens étroits avec Donald Trump et le Trumpisme, a quant à lui fait part de son étonnement dernièrement. Utiliser des menaces économiques contre le pays considéré comme votre plus proche allié depuis plus d'un siècle n'est pas ce à quoi nous nous attendions. En résumé, l'organisation politique, après les menaces de tarifs économiques lancées cette semaine par Trump contre le Royaume-Uni. Attraction fatale? Les extrêmes droites européennes, dont les sympathies avec le trumpisme se racontaient jusque-là au grand jour, se retrouvent donc désormais sur une mer agitée et cherchent à naviguer entre des vents violents et contradictoires qu'elles ont elles-mêmes nourris en faisant de Donald Trump un modèle à suivre pour conquérir le pouvoir. Une fascination partagée, d'ailleurs, pour le président américain, qui, à la fin de 2025, a salué la présence de tous ces partis nationalistes sur le continent européen, composante d'une internationale populiste dont il espère pouvoir profiter. La nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, publiée discrètement en décembre dernier, appuyait d'ailleurs la théorie complotiste d'un effacement civilisationnel sur le continent européen, promue par ces partis nationalistes et leurs nombreux porte-voix dans des médias de moins en moins marginaux. Elle se réjouissait au passage de l'influence croissante des partis patriotiques européens, vus comme une source d'un grand optimisme par le gouvernement Trump. Sur les ondes de la télévision publique française, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, qui parle désormais à l'oreille des dirigeants populistes à travers le monde, n'a d'ailleurs pas caché les ambitions de son pays en espérant l'élection prochaine de Marine Le Pen à la prochaine présidentielle en 2027 en France. La politicienne a été condamnée en 2025 pour corruption et a été frappée d'une peine d'inéligibilité qui l'empêche de se présenter pour le moment. Elle a interjeté l'appel. Il est en cours dans un tribunal parisien. Pour Bannon, cette victoire viendrait ainsi briser l'Union européenne, UE, dont Donald Trump veut réduire l'influence et les pouvoirs pour mieux occuper le vide ainsi produit. Il y a trois éléments qui vont faire voler en éclats l'Union européenne, a assuré Steve Bannon sur les ondes de France 2. Le premier, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020. Le deuxième, c'est l'élection de Donald Trump. Et le troisième élément majeur qui, à mon avis, va tuer l'Union européenne, ce sera l'élection de Marine Le Pen. Le soutien et les accointances sont assumés, même s'il pourrait avoir, dans les circonstances actuelles, les attributs du baiser de la mort, ce geste qui, dans les milieux mafieux, annonce une condamnation pour cette formation politique comme pour les autres partis populistes européens. Fin 2025, Donald Trump était devenu le vecteur d'une image néfaste et négative dans plusieurs pays européens, avec une impopularité caracolant à 77 % au Royaume-Uni, selon l'Institut de sondage YouGov, à 75 % en France, à 81 % en Allemagne et même à 89 % au Danemark, dont la souveraineté du territoire autonome du Groenland est inlassablement remise en question par le républicain. C'était les extrêmes droites européennes en porte-à-faux avec Donald Trump. Un texte de Fabien Deglise, paru le 24 janvier 2026 dans Le Devoir.
Ce qui nous unit, ce qui nous sépare. Un texte signé par le comédien Patrice Cocquereau, qui a parcouru le Canada l'automne dernier à la rencontre de ses habitants. Dans ce texte, il tire quelques conclusions sur l'identité canadienne. Début du texte. Novembre 2025, je quitte Montréal pour un voyage de près de 5 semaines. Je vais visiter et découvrir le Canada pour m'en faire une idée plus précise. Pour aller à la rencontre de ce qui nous unit ou divise ce pays. Dans la perspective d'un troisième référendum au Québec et avec la montée des mouvements indépendantistes en Alberta et en Saskatchewan, ce voyage promet d'être porteur de sens. Tout doit commencer à St. John's, à Terre-Neuve-Labrador. Mais des vents contraires m'amènent plutôt à Halifax. Cette ville est en forte expansion. L'indicateur premier, à mes yeux, est le nombre de grues qui s'activent. Or, les villes près de l'eau m'ont toutes semblé en croissance. Halifax, Québec, ma ville natale, se métamorphose, Vancouver, Victoria. J'ai arpenté chacune de ces villes. Le temps d'y prendre le pouls. Premier constat, Halifax est une ville belle, colorée et inspirante. Les gens y sont courtois et les automobilistes civilisés. C'est une ville qui concilie patrimoine et modernité. Il est facile d'aborder les gens, mais tout semble plutôt en surface. Je profite de mon séjour pour faire un saut du côté de Peggy's Cove. Magnifique! Je croise quelques Acadiens. Je sens la fierté qui les anime. Je fais ensuite un saut en France, à Saint-Pierre et Miquelon, un reliquat de ce qui fut la Nouvelle-France. Enclavé dans les eaux canadiennes, Saint-Pierre est une petite ville aux maisons colorées. Ses habitants, très accueillants, jouent au hockey, mais font commerce en euros. Des Français aux racines diverses, Acadiens et Irlandais s'y sont installés au cours de l'histoire. Je m'envole ensuite vers Winnipeg où j'arrive en pleine finale de la Coupe Grey. Plusieurs Québécois s'y trouvent pour l'occasion. Je réalise que le football, autant que le hockey, est fédérateur d'un océan à l'autre. Si Saint-Boniface est plutôt coquette, Winnipeg, son ancien voisin qui l'a avalé, ne brille pas par son architecture, mis à part quelques beaux bâtiments. Le soir, le centre-ville est désert. Je constate les ravages de l'itinérance parmi la communauté autochtone. Les gens sont courtois, mais l'ambiance est plutôt morose. Si on trouve un peu de français à Saint-Boniface, le bilinguisme reste de façade. Je loue une voiture pour aller voir mon neveu qui vit à Gimli sur le bord du lac Winnipeg. La plus grande communauté d'origine islandaise du pays y vit. Cette escapade me fait rencontrer des gens sympathiques, dont ces deux Québécois de passage qui m'abordent, mon neveu et moi, au restaurant. L'un des deux connaît l'un de mes neveux. Ils ont été voisins à Québec. De Winnipeg, je saute dans le train pour la suite du voyage. Service impeccable chez Via. Une employée et moi découvrons que nous avons été voisins à Montréal. Décidément, voyager permet de renouer avec ses voisins. Si le service est bon, le train, lui, est d'une lenteur excessive. Les convois de marchandises ont la priorité sur les humains. Les paysages plats des prairies sont peu peuplés et plutôt mornes. J'en profite pour parler avec de nombreux passagers. Charmant pour la grande majorité. À peu près tous unilingues anglophones. Je parle mieux anglais que je croyais. une chance, car les échanges sont unilingues. Voilà un élément irritant qui me confirme peu à peu que le bilinguisme en ce pays est un vœu pieux. Les conversations sont sur le mode superficiel. Les gens parlent beaucoup, mais de rien de fondamental. Il est souvent question d'économie, un peu de voyage, c'est tout. Je ne sens jamais la moindre curiosité à l'égard du Québec et du fait français. Malaise, c'est un autre monde. Il n'est jamais question de politique dans les conversations. J'aurais été curieux de savoir ce qu'ils pensent de la montée du mouvement indépendantiste en Saskatchewan et en Alberta. Est-ce un terrain miné, tabou? Me voilà à Saskatchewan. 4 jours à arpenter cette ville que j'avoue avoir eu hâte de quitter. Tout comme Winnipeg, l'itinérance est omniprésente. Les Autochtones composent une grande part de cette population. Cette triste réalité touche beaucoup d'autres couches de la population. Montréal a de la concurrence. Ici aussi, les automobilistes font preuve de civisme. Je l'avais constaté dans l'est du pays. J'en ai maintenant la certitude. Le civisme au volant est une affaire pan-canadienne. À cet égard, le Québec est bel et bien une société distincte. À part quelques beaux endroits, dont l'impeccable musée d'art contemporain, Saskatoon donne l'impression d'une ville monotone. J'ai pourtant pris le temps de l'explorer. À nouveau, la courtoisie des gens est constante, tout comme l'absence totale du français dans l'espace public. Je rembarque ensuite dans le train jusqu'à Edmonton, où mon conjoint me rejoint pour la suite. C'est une plus grande ville que les précédentes, avec des galeries d'art et le surréaliste West Edmonton Mall. Quelques 800 magasins, piscines à vagues, patinoires, la folie. Pourtant, cette grande ville est moribonde en son centre. Des commerces sont fermés. Des gens tentent de se réchauffer dans les haltes restaurants de l'Edmonton City Center. Cette ville qui a poussé vite n'affiche aucun nouveau chantier en hauteur, mais elle possède un excellent système de tramway qui poursuit son expansion. Civisme et courtoisie demeurent de mise. Le français? Très rare, quoiqu'il existe une dynamique communauté francophone. Nous quittons Edmonton pour traverser les Rocheuses qui offrent des paysages fabuleux. Le wagon d'ombre offre une vue optimale. C'est la portion la plus spectaculaire du voyage. 30 heures plus tard, nous arrivons à Vancouver. J'adore cette grande ville élégante et ouverte sur le monde. Architecture audacieuse, vue sur les montagnes et la mer, réseau de transport à la fine pointe, restaurant de qualité. Il paraît que les francophones et francophiles sont nombreux. On ne le devine pas en conversant avec une charmante dame qui nous fait visiter une ancienne église convertie en musée. Elle a vécu plusieurs années à Montréal. À aucun moment, elle ne nous parle en français. Cette expérience m'amène à penser que le bilinguisme, au fond, est une réalité québécoise et non canadienne. Le mandarin, ici, est omniprésent. Nous tombons même sur une machine distributrice de produits uniquement étiquetés en chinois. Vancouver est magnifique, mais l'envers de la médaille, l'itinérance et le coût exorbitant des loyers, vient ternir le portrait global. Cette ville, tournée vers l'Asie, vit dans une autre perspective que la nôtre. C'est carrément un autre pays. De Vancouver, court séjour à Victoria. Très british, propre, agréable, belle, dynamique. J'adore la ville tant pour l'architecture que pour l'affabilité des gens, le civisme et les restaurants. Et une fois plus, le français est quasi inexistant. Avant de rentrer à Montréal, nous faisons un court séjour à Whistler. Les sommets enneigés sont majestueux, le centre de ski rappelle tremblant. Ce voyage m'a nourri l'esprit et le cœur. Tant de rencontres, de paysages. Au fil des escales et des conversations, un certain bilan s'impose. Il y a des domaines où le Canada partage les mêmes valeurs que le Québec. Le sport, le hockey surtout, l'importance d'un système politique fondé sur la démocratie, le maintien d'un système de santé et d'un réseau scolaire accessible. Pour ce qui est de la langue et de la culture, en revanche, nous vivons sur deux planètes. Le bilinguisme est une illusion. Malgré de belles intentions, l'espace public ne reflète pas ou peu la réalité francophone. Vous sentez-vous d'abord québécois ou d'abord canadien? J'ai beaucoup sillonné le Québec. Le Canada, je le connaissais en partie. J'adore voyager. Je viens de visiter nos voisins avec lesquels je me suis bien entendu. Mais c'est comme si j'avais visité un autre pays. Dans tous les cas, il m'apparaît essentiel de faire la connaissance de l'autre en allant à sa rencontre. Peut-être afin de faire le pont entre deux solitudes qui portent encore si bien leur nom. Fin de ce texte signé par le comédien Patrice Cocro, titré « Ce qui nous unit, ce qui nous sépare », publié dans la presse du 30 janvier 2026.
Téléphone interdit, c'est pas la fin du monde. Un texte de Vincent Bousseau-Pouliot paru le 12 septembre 2025 dans La Presse. Depuis un an, Rachel Houle et ses collègues de classe du Collège Sainte-Anne à Dorval n'ont plus de téléphone portable à l'école. Ils ont passé une année scolaire complète sans avoir les yeux constamment rivés sur leur petit écran, cachés dans leur casier toute la journée. Et c'est pas la fin du monde, assure la jeune fille. Depuis la rentrée il y a 2 semaines, Québec interdit le téléphone portable et les autres appareils mobiles à l'école pour tous les élèves au Québec, dans les cours autant que durant les pauses et sur l'heure du dîner, partout sur le territoire et dans les bâtiments de l'école. On a donc demandé à 5 élèves de 4e secondaire du Collège Sainte-Anne de nous parler de leur année scolaire sans téléphone. Leur bilan? Très positif, au point où les 5 élèves ne souhaiteraient pas avoir leur téléphone. Pourtant, au départ, 4 d'entre eux étaient contre l'interdiction du téléphone à l'école. Après un an, ils sont tous d'accord en principe, à quelques nuances près pour certains. Citation. Ça met une limite entre l'école et la maison et c'est très bien. Fin de citation, dit Marianne Letendre. Citation. Il y a quelques inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages. C'est bon pour la socialisation, pour la concentration à l'école. Fin de citation, dit Élisabeth Simard. Citation. Une fois que tu t'adaptes, tu es capable de vivre sans ton téléphone à l'école. Fin de citation, dit Félix Mirski-Leblanc. Auparavant, dès qu'ils avaient un moment de libre, la majorité des élèves est arrivée sur leur portable à texter, jouer à des jeux, regarder des stories. Citation. Tu arrivais le matin pour parler à tes amis, ils jouaient sur leur selle, et c'était « Allô? Ah, désolé », raconte Élisabeth. Sans téléphone portable avec eux, les élèves se concentrent davantage dans les cours, estiment nos 5 élèves du Collège Sainte-Anne. Mais la principale différence, c'est le matin, le midi et entre les cours où les élèves doivent s'occuper sans téléphone. « On fait autre chose », dit Rachel. « On parle », dit Élisabeth. « C'est bien pour que les élèves socialisent. » Tu viens à l'école pour socialiser avec tes amis, dit Ten Nguyen. Maintenant, je vais au gym le matin, dit Félix. Félix Mirski-Leblanc témoigne. Citation. Ne pas voir notre téléphone, ça crée moins cette envie de jouer à des jeux vidéo. Notre cerveau et nos idées changent de sujet, ils vont ailleurs. Ça nous permet de nous concentrer un peu plus sur notre travail. Fin de citation. Citation. On voit tellement moins nos téléphones, on ne pense plus. « Ah, je vais mettre ça dans ma story. » Fin de citation, dit Marianne. Les 5 élèves ne retourneraient pas en arrière, d'autant plus que le téléphone portable n'est pas complètement interdit à l'école. Un enseignant peut en permettre l'utilisation à des fins pédagogiques. On peut aussi l'utiliser pour des raisons de santé ou si une urgence le justifie. Les élèves ont néanmoins quelques suggestions à faire, qui se résument en un mot « flexibilité ». Citation. Parfois, j'aimerais prendre des photos d'un projet ou consulter mon horaire de bus sur mon téléphone, mais je ne peux pas. Fin de citation, dit Félix. Citation. Si on a oublié de faire signer un formulaire, on ne peut pas appeler nos parents. Fin de citation, dit Tienne. Que celui ou celle qui, ado, n'a jamais oublié de faire signer un papier à ses parents, lui lance la première pierre. Rachel trouve un peu sévère que l'interdiction du gouvernement du Québec s'étende aux montres intelligentes et aux écouteurs sans fil, entre autres pour écouter de la musique. Citation. Toutes les générations ont eu des outils pour écouter de la musique. Ça fait partie de l'adolescence depuis longtemps, dit-elle. La musique peut aider contre le stress. Fin de citation. Québec n'a pas interdit les téléphones à l'école sur un coup de tête. Les experts s'inquiètent des conséquences néfastes de l'exposition des enfants et des ados aux technologies numériques. Une commission spéciale, composée de députés de tous les partis à l'Assemblée nationale, a étudié la question. Elle a recommandé, entre autres, l'interdiction du téléphone à l'école. Sans surprise, cette mesure est beaucoup plus populaire auprès des parents, 78 % en faveur, que des ados, 15 % en faveur, selon la commission. Nos 5 jeunes estiment que le gouvernement et les écoles devraient mieux expliquer aux élèves les raisons derrière cette décision. Quel est leur message à tous les élèves du Québec qui doivent depuis quelques jours se sevrer? Citation. Il faut être ouvert d'esprit et capable de s'adapter, dit Félix. C'est sûr que c'est difficile sur le coup, mais une fois que tu t'adaptes, tu es capable de vivre sans. Fin de citation. Citation. Je suis contente de pouvoir me séparer de mon cell le jour, dit Elisabeth. Je peux parler avec mes amis et mon temps d'écran a diminué. Fin de citation. En prime, ils peuvent taquiner leurs parents qui ont parfois de la difficulté à se séparer de leur téléphone à la maison. Citation. Ils disent qu'ils sont sur leur téléphone pour le travail. Fin de citation, dit Rachel en souriant. Citation. Oui, oui, le travail. Fin de citation. C'était « Téléphones interdits, c'est pas la fin du monde », un texte de Vincent Brousseau-Pouliot paru le 12 septembre 2025 dans La Presse.